Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Galère 88.4. Nous sommes le jeudi 11 juin 2020 et vous écoutez La Gueule Ouverte, une émission d'Attaque Campus. Aujourd'hui, cet opus de La Gueule Ouverte n'est pas n'importe lequel. En effet, cet épisode marque la fin de ma deuxième saison à vos côtés. Après ça, la traditionnelle pause estivale marquera son retour et avec elle, quelques mois de répit pour vos fidèles oreilles, comme pour mes analyses bimensuelles. Alors, pour un grand final de la saison, il a fallu choisir soigneusement les sujets à aborder et les mots pour en parler. Et soyons honnêtes, ça n'a pas été chose aisée tant la période que nous traversons est jonchée de faits de société, de mouvements sociaux, de dynamiques politiques et de phénomènes culturels qui ont retenu mon attention et probablement la vôtre. Sincèrement, c'est plutôt le bordel en ce moment, en France comme ailleurs. Et du coup, une fois n'est pas coutume, c'est de cet ailleurs que nous allons partir. Notre voyage radiophonique débutera donc en dehors de notre cher hexagone. Ainsi, nous commencerons notre émission aux États-Unis, à Minneapolis pour être précis. Cela n'a sûrement pas dû échapper à votre regard aguerri. Après avoir été pendant un temps l'épicentre d'une épidémie, ma foi, fort déstabilisante, le pays de l'oncle Sam est maintenant au cœur d'une vague d'un genre nouveau. Une vague pleine de justice, pleine de colère, pleine d'émotions et, c'est peut-être le plus important, pleine d'espoir. Une situation inédite sur laquelle nous tenterons de revenir ensemble avec prudence, étant évidemment conscient de la distance tant sociale que géographique qui me sépare du mouvement le plus important du monde d'après. Et justement, ce théorique monde d'après le Covid dont nous avons tant entendu parler, qu'en est-il? C'est ce dont nous discuterons dans la deuxième partie de l'émission. Entre retour à la vie normale et début de la vie d'après, entre espoir et désillusion, entre ferveur et résignation, comment se placer dans cette étrange période supposément novatrice que nous abordons tout juste? Autant de grandes questions que nous allons nous poser ensemble et qui, spoiler alerte, nous mèneront sur une interrogation peut-être encore plus insaisissable, celle de l'avenir. L'avenir, ce sera notre thème de fin. Une manière plutôt ironique de terminer la saison, sachant que nous avions commencé l'année en abordant ce sujet si particulier du futur. Vous êtes sur Radio Galère, 88.4, et vous écoutez La Gueule Ouverte, une émission d'Attaque Campus. I can't breathe. Je ne peux pas respirer. Ces mots choquants que nous venons d'écouter, ce sont les derniers prononcés par George Floyd, un homme noir américain de 46 ans, alors qu'il agonisait, le souffle coupé par un policier blanc, Derek Chauvin. Cette scène épouvantable qui s'est déroulée le 25 mai 2020 à Minneapolis, aux États-Unis, c'est peut-être l'une des choses les plus dures qui m'était étonné de voir cette année. 8 minutes 46 de lente agonie, filmée par une passante. 8 minutes durant lesquelles nous voyons cet homme, George Floyd, allongé face contre terre, écrasé sous le corps d'un policier, appuyant de tout son poids son genou sur la gorge du défunt. 8 minutes au cours desquels l'homme qui était surnommé Gentle Giant, doux géant, par ses amis, répétera cette phrase plus de 16 fois. « I can't breathe. » Je ne peux pas respirer. 8 minutes d'horreur, durant lesquelles nous voyons la vie lentement quitter le corps de George Floyd sous le regard impassible de la police et des passants, alors même que l'homme, dans un ultime souffle, criait sa douleur et sa peur de mourir sous la violence policière.
« Please. Ah, I can't breathe. »
Entouré de 3 de ses collègues, le policier en cause, Derek Chauvin, au sourire narquois, voire glaçant, ne se doutait certainement pas qu'il venait de déclencher une vague de colère d'une ampleur rarement égalée. Un meurtre raciste, un de plus. Une mort horrible, une de trop. Alors, désactivons tout de suite une critique. Oui, ce meurtre est raciste. Non pas parce que Derek Chauvin se serait levé le matin en se disant qu'il allait tuer un homme noir dans la journée, c'est pas le propos. Plutôt parce que ce meurtre est issu d'un système policier globalement raciste. Parce qu'aux États-Unis, les personnes noires représentent 12% de la population, mais subissent quand même 24% des morts impliquant la police, deux fois plus. Parce que, entre 2013 et 2019, 99% des morts lors des interpellations policières aux États-Unis n'ont débouché sur aucune condamnation des agents mis en cause. Parce que là-bas, pour les hommes noirs de 25 à 29 ans, les violences policières sont la 7e cause de mortalité la plus répandue. Ça se place alors devant le diabète, devant la grippe, devant la pneumonie, devant les maladies chroniques des voies respiratoires ou même devant les maladies cérébrovasculaires. Parce que pour les parents d'enfants noirs américains, les violences policières liées à la couleur de peau sont un sujet à aborder nécessairement. Au même titre que la prévention des MST, les dangers des produits psychotropes ou bien la lutte contre l'obésité, la discrimination raciale est un sujet à aborder lors de l'éducation, encore aujourd'hui. Parce que grandir en étant noir aux États-Unis signifie comprendre que vous risquez un jour de tomber sur un homme comme Derek Chauvin, sans avoir commis d'autres crimes que d'exister tel que vous êtes. Derek Chauvin. Lui qui a été impliqué dans 3 interpellations mortelles, en 2006, 2008 et 2011, en faisant à chaque fois usage de son arme. Lui qui a fait également l'objet de 3 plaintes au Civilian Review Authority, mettant en cause son ton humiliant et désobligeant. Lui qui, durant ses 20 années de carrière au service de la police, a ajouté 7 autres plaintes déposées contre lui à l'Office for Police Conduct sans qu'aucune n'aboutisse. Lui qui, au total, apprendrons-nous plusieurs jours après l'affaire, cumule 18 plaintes dont seulement 2 ont abouti à des sanctions. Quelles sanctions ? Des lettres de réprimande. Une impunité qui allait bientôt toucher à sa fin. Après la diffusion très large et très virale des vidéos de l'interpellation mortelle, des manifestations et des émeutes contre le racisme et les violences policières ont éclaté dans l'agglomération Minneapolis-Saint-Paul dès la nuit suivante. S'en est suivi la même chose dans le reste du pays et dans le monde entier dans les jours d'après, et à de nombreuses réactions de protestations dans le monde politique, culturel et sportif. Une réaction populaire rapide et puissante donc, qui produira très rapidement des effets. Chauvin et ses 3 collègues présents sur les lieux seront licenciés par la police dès le lendemain de l'affaire et 2 enquêtes seront ouvertes, dont l'une par le FBI. L'assassin sera arrêté et placé en garde à vue le 29 mai pour meurtre au 3e degré et homicide involontaire coupable au 2e degré. Pour la précision, le meurtre au 3e degré aux États-Unis s'est défini comme un homicide involontaire, mais témoignant, je cite, « d'un esprit lâche et sans égard pour la vie humaine ». C'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Finalement, début juin, le procureur général du Minnesota requalifiera les faits de meurtre au second degré, non prémédité donc, et fixera la caution du coupable à 1 million de dollars. Les circonstances autour de la mort de George Floyd conduirent au retour sur le devant de la scène aux États-Unis et puis partout autour du globe d'un très 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 grand mouvement, Black Lives Matter, les vies noires comptent. Ce mouvement et ses protagonistes crient depuis avec une force inédite leur rage face à un système raciste et leur soif de justice pour toutes et tous. L'écho s'est très vite fait ressentir. Dans de nombreux pays, ce cri de colère résonne depuis, pour faire comprendre aux yeux du monde que le racisme est toujours bel et bien présent en 2020, qu'il provient d'un système qui oppresse les gens et détruit les vies, qu'il tue, que la police tue parce qu'elle fait partie de ce système. La réaction forte aux États-Unis montre la profondeur de la souffrance qui est liée au racisme qui s'immisce dans toutes les sphères de la vie. L'ampleur internationale de son écho, quant à elle, montre à quel point ce fait est répandu autour du globe. Alors, plutôt que de continuer à parler avec une telle distance de ce qui se passe aux États-Unis, plutôt que de passer inlassablement les informations qui me parviennent de là-bas par mon propre prisme de perception, j'ai préféré donner la parole aux personnes concernées par la situation que je connaissais aux États-Unis. C'est ainsi que m'est parvenu l'audio suivant. Rédigé par Sydney et Marley, deux jeunes américaines touchées par la situation, les mots qui suivront étaient écrits librement, un témoignage brut, auquel nous avons essayé tant que possible de rester fidèles lors de la traduction. Elles nous y parlent de leur expérience, de leur ressenti de personnes racisées en Amérique, et nous offrent un regard poignant sur une situation extrêmement sensible au pays des paradoxes.
Black Lives Matter n'est pas juste une tendance. Ce slogan existe depuis 2013 environ. Il est apparu après l'acquittement du meurtrier de Trayvon Martin. La différence qui est faite entre les blancs et les noirs et les problèmes de discrimination raciale qui sont faits aux États-Unis sont des sujets difficiles à aborder pour moi. Dans ma maison, la race n'existe pas. Mon père est blanc, mais pour moi, c'est juste mon père. Ma mère est noire, mais pour moi, c'est juste ma mère. En dehors de chez moi, en fait, tout tourne autour du concept de race. Nos absences de conversation à ce sujet avec mes parents ont retardé ma compréhension de cette relation qu'on a à son origine dans la société. Et tout au long de ma vie, j'ai observé de nombreuses situations au cours desquelles j'ai été choquée par la manière dont les Noirs étaient traités. J'ai signé des pétitions, rejoint des groupes de diversité à la fac, et j'ai même créé un point d'échange au sein de ma sororité, à dominante blanche, pour parler de nos rapports à la diversité. En tant qu'être humain, seul et même à cinq, c'est difficile de lancer quelque chose. Mais George Floyd et Amy Cooper ont tous deux hautement participé à la mise en lumière et à la dénonciation des privilèges blancs, du racisme systémique dans une période où une pandémie nous force à prêter attention au monde qui nous entoure, et ça a déclenché un vrai mouvement aux États-Unis. On avait deux exemples, l'un juste après l'autre, qui nous ont permis de réfléchir sur ce qu'est le racisme dans ce pays. En quoi est-ce différent des émeutes de 1992 à Los Angeles pour Rodney King, ou de celle de Ferguson? Je pense que ce sont deux choses différentes. D'abord, cette fois, c'est la jeune génération qui mène. La plupart des grosses manifestations ont été organisées par des lycéens. Ces jeunes ont grandi avec des parents qui leur ont raconté des histoires, celles de Trayvon Martin et d'Eric Garner. Puis, on a aussi pris le pouvoir en tant que génération. Certains critiqueront sans doute le fait que beaucoup a été fait avant notre arrivée, mais ça nous a donné la force et le courage d'agir, avec de l'espoir et un idéal en tête. Et puis ensuite, on a accès à de l'information en continu avec les réseaux sociaux. Ne pas savoir ce qu'il se passe actuellement dans le monde est de l'ignorance délibérée. On vit aussi une période unique où peu d'autres choses peuvent occuper notre esprit, à part les médias. On ne peut pas s'en détacher parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et les Noirs ne sont plus les seuls à être au courant de l'existence de ce racisme systémique. Maintenant, tout le monde le sait. Ce sont ces deux faits qui font du mouvement Black Lives Matter un combat comme on n'en avait jamais vu. Et qu'est-ce que j'espère qui ressortira de tout ça? En premier, et c'est le plus simple, ce sera d'avoir plus de discussions autour du racisme. Être aveugle face à ça, c'est se mettre du côté des bourreaux. On a besoin d'acquérir des connaissances sur l'histoire raciale pour pouvoir dénoncer le racisme quand on le voit. J'aimerais aussi voir une évolution sur le plan de l'éducation, qu'on puisse être dans l'inclusion de tous et qu'il n'y ait plus de différences faites de la part du système. Les enfants ne naissent pas racistes, on le leur apprend. Alors c'est le bon moment pour leur apprendre à être antiraciste. Parce que non, ce n'est pas suffisant d'être simplement non-raciste. La dernière chose que je souhaite est une réforme sur les prisons et une meilleure réinsertion. Il y a un nombre considérable de Noirs en prison, pour de simples vols et maladresses, et ceci est le résultat du racisme systémique dont les institutions font preuve. La loi n'est pas en notre faveur. La société le doit à ceux qui n'ont pas eu la chance d'apprendre et de grandir au sein de communautés qui les ont entretenues. Il y a tant d'autres changements auxquels j'aimerais participer, mais je pense que tout ça serait un bon début pour réparer notre système borné. La race, c'est un sujet délicat aux États-Unis. Certaines personnes n'hésitent pas à appeler noir, blanc ou asiatique une personne, tandis que d'autres préfèrent ne pas mentionner la race du tout, souvent parce qu'ils ont peur d'offenser quelqu'un. Même si d'un côté je respecte ceux qui ne veulent pas offenser les gens, je trouve que c'est être négligent que de ne pas en parler du tout. Parce que plus on en parle, plus on en apprend. D'ailleurs, c'est intéressant de voir la manière dont mes amis parlent d'une personne blanche. Ils ne les appellent jamais les blancs. Ils disent toujours « cet homme » ou « cette femme ». Je pense que c'est important d'avoir en tête que le mouvement Black Lives Matter ne supporte pas la violence et la destruction. Le but de ce mouvement n'est pas de faire du mal aux autres, que ce soit mentalement ou physiquement, mais plutôt d'apporter à notre société des connaissances quant aux inégalités, dans le but de créer du changement pour un monde plus égal. De nouvelles revendications permettent de montrer qu'il existe une haine chez certaines personnes, mais que la majorité adhère au mouvement en protestant de manière pacifique. Lorsque deux personnes sont en désaccord, il est inutile qu'elles se battent. On ne combat pas la haine par la haine. On ne peut pas non plus dire à quelqu'un que sa manière de réagir n'est pas la bonne. Beaucoup de Noirs sont morts à cause des violences policières. Il y a des femmes enceintes qui meurent uniquement parce qu'elles n'ont pas reçu les soins nécessaires à cause de leur couleur. Il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'école avec les ressources nécessaires, comme par exemple dans le cas des écoles privées, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et c'est contre tout ça qu'on se bat. Le fait est que les gens s'intéressent plus facilement au sujet lorsque des magasins perdent leurs biens que quand des gens perdent la vie. Je ne condamne pas le pillage ou le fait de se battre contre quelque chose de manière la plus intense qui soit, parce que c'est plus simple de retenir l'attention des gens quand on fait parler de soi. Mais je sépare cette intensité-là de la violence ou de la manifestation pacifique. Ça force notre société à prendre un moment pour réfléchir, à se questionner sur ce qu'il se passe, au lieu de simplement juger les manifestants. Les gens devraient se demander, après tout, la pandémie rend-elle réellement la manifestation impossible? Et puis pourquoi une partie de la population se bat? Comment on a pu contribuer à ce problème? Et comment ils peuvent contribuer à le faire disparaître? Little cigar on a marble stand. Trying to find the ocean. Looking everywhere. Hard times in the city. In a hard town. Ain't nowhere to run to. There ain't nothing here for free. Look on the corner, waiting for a train. The sidewalk, sleeping in the rain. And the people hide their faces and they hide their eyes. Cause the city's dying.
never gonna come back here till the day I die.
Comme vous l'aurez compris, cette problématique d'un racisme institutionnalisé aux États-Unis n'est pas nouvelle, loin de là. Le fait que les personnes racisées risquent leur vie lors des interactions avec les forces de l'ordre n'est pas apparu avec George Floyd, et les exemples funestes de vies brisées par le racisme font légion. Pourtant, quelque chose a changé cette fois-ci. Comme une étincelle mettant le feu aux poudres incandescentes de l'intolérance, la mort de George Floyd a fait l'effet d'un raz-de-marée, inattendu. Oui, inattendu. Non pas parce que les réactions seraient disproportionnées, comme l'avancent nos traditionnels éditorialistes sillonnant les plateaux télé pour faire l'éloge de leurs discours haineux. Non, inattendu parce qu'on se serait presque habitué à observer de telles scènes d'horreur sans s'y voir opposer la juste et nécessaire réaction populaire que nous observons depuis plusieurs semaines. Inattendu parce que la mort de Steve et Zineb en France l'année dernière m'avait plongé dans une telle rage et une telle incompréhension que même l'inaction populaire et la fausse pudeur du « on ne connaît pas le contexte » n'avaient pas réussi à l'aggraver, cette rage. Inattendu, parce que la résignation fait son lit, là où le désespoir devient la norme. Les exemples s'accumulent et se banalisent, ici comme outre-Atlantique. Mais non. Ici, personne ne s'est laissé faire, comme outre-Atlantique. Au contraire. Inattendu est cette réaction internationale. Superbe est son éclat. Ainsi, ce qui est inédit pour moi avec la protestation que nous vivons, c'est sa capacité à être sortie du cadre dans lequel le mouvement était jusqu'alors restreint. Les événements faisant suite à la mort de George Floyd sont, par leur impact global, très largement sortis du cadre de l'événement militant pour devenir ni plus ni moins qu'un véritable fait de société internationale. Franchement, ce serait vraiment pas étonnant de voir un mouvement d'une telle ampleur inscrit dans les livres d'histoire des générations futures. Alors, pourquoi je m'efforce tant de vous parler de l'ampleur phénoménale du mouvement ? Parce qu'il s'est retrouvé dans toutes les sphères de la société. Sans pour autant chercher à mélanger symptômes, causes et effets, beaucoup de choses se sont passées dans les sphères médiatiques, politiques, culturelles. Déjà, les premiers que j'ai vu avoir réagir, ce sont les politiques. Enfin, les politiques. Comprenez ici la politique spectacle. Commencer par les traditionnels tweets polémiques de Donald Trump, la saisie du problème par le monde politique américain a très vite débordé. Camp contre camp, pro-manifestation contre pro-retour au calme, les dirigeants américains ont, dans leur milieu, binarisé très vite le débat. Une récupération de part et d'autre du mouvement dans une visée de promotion politique qui atteindra son apogée lorsque les démocrates, pour s'opposer aux républicains, poseront le genou au sein du Congrès. Mais bon, les politiques sont très loin d'être les seuls et encore plus loin d'être les premiers à en avoir parlé de Black Lives Matter et du mouvement lié à George Floyd. Le monde du sport fait partie de ceux qui ont réagi en premier. Je pense ici à LeBron James qui fait partie des premières personnalités à avoir partagé massivement la vidéo du meurtre de George Floyd auprès de sa communauté. 66 millions de personnes quand même. Rajoutez à ça Stephen Curry et Klay Thompson, deux autres joueurs de NBA, et le célébrissime Michael Jordan, qui en plus de se positionner a promis un don de 100 millions d'euros au mouvement Black Lives Matter, et vous avez un effet d'emballement qui pousse la NBA à elle-même produire des t-shirts officiels supportant le mouvement. D'autres secteurs ont alors suivi, notamment dans la pop culture. Rihanna a été très active sur les réseaux sociaux pour partager les messages et les soutiens. Banksy aussi a fait de nombreux coups d'éclat, par exemple en proposant de remplacer une statue d'un colonialiste déboulonné par les manifestants par une statue des manifestants déboulonnant la statue. C'est fort. Dans la pop culture, on peut aussi citer les serveurs de Call of Duty, de GTA, de NBA 2K qui ont été fermés à l'occasion de l'hommage international à George Floyd. Rajoutez à ça les traditionnels influenceurs en ligne qui, ici, au lieu de vendre un produit à leur audience, ont participé à massifier le message. Toutes ces personnalités et toutes ces icônes ont participé à apposer leur image positive à côté de l'image du mouvement en création. Ils ont créé des espaces de discussion en se positionnant un à un et donc en faisant parler de leur positionnement. Ils ont banalisé les discussions sur les sujets, là où beaucoup n'osaient pas le faire avant. Ils ont rendu cool le fait de soutenir le mouvement et par réciproque ont réduit au rang d'intolérance celles et ceux qui ne le faisaient pas. Ouais, c'est pas qu'une histoire de quantité d'informations, c'est aussi une histoire de qualité. D'un coup, c'est tombé sous le sens pour toutes celles et tous ceux qui expérimentent la vie en ligne que, ben, il faut se positionner, il faut en parler, il faut agir. Les influenceurs, ils ont en fait littéralement créé une mode, sans se concerter, sans se forcer, de proche en proche et par les canaux de diffusion lambda. Alors, dans le militantisme, adieu les pétitions, adieu les newsletters, adieu les AG en live, bonjour les hashtags, bonjour les chaînes de story, bonjour les trending topics, bonjour le détournement du capitalisme au service du bien commun, bonjour la réappropriation populaire des réseaux de communication. Le message y est passé et c'est que le début. À mon sens, c'est peut-être ça le plus surprenant avec ce mouvement. Le fait qu'il ait réussi à passer toutes les barrières qui le séparent de telles sphères de popularité normalement. Que ce soit par un alignement d'étoiles politico-médiatiques ou par un réel et sincère engagement de chaque partie prenante, le résultat est là. Black Lives Matter est aujourd'hui le mouvement le plus populaire au monde, bousculant les consciences, forçant à l'action politique et propageant partout autour de lui ce signe d'espoir. C'est possible de faire d'aussi grandes choses lorsque la cause en vaut la peine, et maintenant, on le sait.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité, vous vivez à l'écart de nos réalités. La rue le pense, je le mets en musique. Et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. On prend les mêmes et on recommence. Les mêmes promesses, les mêmes mensonges. Les mêmes tapes dans la caisse, les mêmes plonges. Les mêmes sons dans la hesse, les mêmes manges. Les mêmes menteurs, trafiquent les mêmes comptes. Les mêmes commis au service des mêmes pontes. Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés. Les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte. Lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac? Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé. Tous ceux que j'ai cités ont été condamnés. Ce sont les mecs de cité qui traitent comme des damnés. Vous étiez choqués par le groupe Tandem. Vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie. Vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie. Cumul des mandats jusqu'où vous irez? Est-ce le cumul des salaires que vous désirez? Comme toute la France d'en bas, je crois plus aux politiciens. Je continue le combat, je crois au réveil citoyen. Pour changer les choses, il faut le vouloir. Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir. Vous faites de la politique sans conviction. Parfois vous en faites même pour éviter la prison. En costume, cravate sont les vrais voyous. Vous ne croyez plus à rien, plus personne croit en vous. Y'a qu'à observer les taux d'abstention. Faut pas trop prendre les gens pour des cons, attention. Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes. Entre vous et la rue, y'a plus que les CRS. À bout de souffle, votre système est dans un cul-de-sac. À essayer de te battre comme un cul-de-chat. Vous êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas plus. Vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas. Et si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de flics bien dressée et scellée. Le dialogue social gît dans un cercueil. Les keufs tirent au flashball, tu peux y perdre un œil. Vous faites monter le sentiment anti-policier. Usez de la police comme d'une armée privatisée.
Le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé d'avis, il ne sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Ces putains de dettes là qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer, ces putains de dettes. Parce que la banque elle est plus forte que vous.
La banque elle est plus forte que vous.
C'est aller vite, hein. Très vite même. de manifestations en émeute, de scandales en réaction populaire, on en oublierait presque ce qui vient de se passer, ce dont nous venons à peine de sortir, et encore. Crise sanitaire liée au Covid-19, confinement généralisé de la population, autant de souffrances dont les stigmates semblent aujourd'hui cachés par l'épaisse couche de colère contenue pendant des mois qui ressurgit subitement. Et n'en déplaise aux partisans d'un retour à la norme heureux, absous de toute responsabilité, même la plus grande rassade de gaz lacrymogène n'aide pas à avaler ce qui nous reste encore à travers de la gorge. Franchement, 3,5 milliards de personnes limitées dans leurs déplacements, le retour d'un état d'urgence théoriquement temporaire et ses travers, la destruction du code du travail qui avance, la loi Avia qui piétine la liberté d'expression, la manipulation médiatique qui fait dériver les êtres et les comportements, franchement, vous pensiez qu'on allait arrêter de parler de tout ça aussi vite ? Aujourd'hui, ça fait un mois que nous avons été déconfinés. Alors c'est bon ? On y est ? C'est ça le monde d'après ? Crise inédite apporte réaction inédite. Prise de recul permet de les comprendre. La dernière fois que nous nous sommes parlé, dans cette émission, en avril, nous faisions le constat d'un monde tournant au ralenti. Depuis chez nous, c'était le thème, nous observions la possibilité de changer les choses profondément, à la hauteur de la situation que nous traversions. C'était inédit. Devant ce monde en pause, nous avons osé. Nous avons osé réfléchir, nous avons osé penser. Nous avons osé nous projeter, conjecturer, tirer des plans sur la comète, loin des limites que le réel nous impose. Car, si le monde s'arrête, même temporairement, ça nous laisse cette majestueuse fenêtre de tir qui consisterait à le redémarrer autrement, comme nous le voulions. Ne serait-ce pas là le plus beau des exercices politiques, de la vraie et sincère politique ? Franchement, dans mes pensées les plus insolentes, j'ai envisagé une prise de conscience massive de la population au regard de l'état de la planète, de la société, de la biodiversité. Ne dit-on pas que l'on se rend compte que quelque chose nous manque uniquement lorsque cette chose nous est retirée ? Bien là, pendant 2 mois, nous avons été coupés, bien que partiellement, de beaucoup de nos problèmes. Fast fashion, fast food, fast life, métro-boulot-dodo, consommation qui rythme nos vies et j'en passe, nous ont été retirés. Alors, est-ce que ça nous a manqué ? Sincèrement, qu'est-ce qui nous manquait le plus ? Aller manger à McDo ? Ou bien serrer des proches dans les bras et être à proximité des siens ? Acheter un t-shirt de la dernière collection H&M ? Ou bien assouvir notre besoin de faire société par la proximité à l'autre. Naïveté de la croyance utopiste, candide à ma manière, j'y ai cru au début. En fait, c'était pas si simple, même pour moi, surtout pour moi. Pour vous donner un ordre d'idée, je me suis surpris à faire régulièrement un détour lors de ma précieuse heure de sortie quotidienne autorisée pour vérifier si les stores du snack du coin ne s'étaient pas miraculeusement ouvertes. Rendez-vous compte, on n'avait qu'une heure de sortie autorisée par jour et j'en gaspillais une partie à la recherche de malbouffe. Comme ça, avec le recul, en le disant à voix haute, ça semble tellement irrationnel. Mais faut dire que ça manquait, hein, vraiment, même si c'est pas bon pour moi. Mince, serais-je en fait malade ? Serions-nous, en un certain sens, addicts à ce qui nous détruit ? Addiction et désillusion, voilà où la prise de recul sur la situation m'a mené. Addiction d'abord, parce que celles-ci ont été amplifiées pour moi comme pour beaucoup d'autres. En ce sens, des enquêtes menées durant le confinement en France abondent. Sur les derniers mois, les Français auraient bu plus régulièrement, augmenté leur situation de cigarette, passé beaucoup plus de temps sur leurs ordi et smartphones, alors même que ceux-ci sont de véritables usines à manipuler la sécrétion de dopamine, hormone du plaisir dans le cerveau. Des conduites addictives qui traduisent quelque chose de beaucoup plus profond, philosophiquement tout du moins. Dans un monde rythmé par la productivité et la rentabilité, dans une société où le temps à ne rien faire est considéré comme du temps perdu, bah ça fait bizarre de se retrouver face à soi-même. C'est terrifiant de retrouver le moi que j'ai tant esquivé par manque de temps pour l'apprivoiser. Finalement, la fuite dans un autre univers, numérique, doux, algorithmiquement adapté, n'est peut-être qu'un moyen d'éviter le malaise mental, addiction. Addiction parce que la joie de la liberté temporelle retrouvée a vite fait place pour beaucoup d'entre nous à la solitude et au vide. Ça nous manque quand même le bruit de la ville sur nos vies. Addiction. Addiction, parce que le jour du déconfinement, il y avait autant de monde et de tension dans l'interminable file d'attente devant le Zara de la rue Saint-Fé qu'il y en avait devant la zone de deal de la cité des Oliviers avant notre mise en quarantaine. Après, je sais pas, hein, c'est un ami qui m'a raconté, évidemment. Addiction. Addiction, parce que ça m'aurait pas choqué de voir Bruno Le Maire, ministre de l'économie, se gratter frénétiquement le bras lorsqu'il nous annonçait que la relance économique serait la priorité absolue des temps à venir, tel un accro à la recherche de son fixe de croissance. 2 mois de décroissance et ça provoque ce genre de manque ? Addiction. Addiction, parce qu'elle provoque des comportements irrationnels de recherche d'une satiété toujours plus dure à contenter. 7 milliards pour Air France, une médaille pour le personnel hospitalier. Addiction. Addiction, parce qu'une vidéo montrant un homme se faire livrer un plat via Uber Eats pour patienter lors des 3 heures de queue à la réouverture d'un McDo était sous-titrée « MDR, c'est le meilleur ». Addiction. Addiction parce qu'une amie était à la limite de pleurer lorsqu'elle m'expliquait ne pas avoir profité du confinement pour travailler son summer body alors que les plages allaient vite réouvrir. L'oppression du regard de l'autre sur son corps et la pression des stéréotypes de beauté n'auraient-elles pas pu disparaître à l'apparition du monde d'après ? Des illusions. La nature aurait repris ses droits. Il y a des canards sauvages à Paris, des poissons dans les canaux à Venise, des kangourous à Sydney. Des illusions. L'Italie, pour ne citer qu'elle, s'est empressée de rouvrir ses frontières touristiques. Peut-être que le poisson, parcourant l'eau de Venise, se sentait trop seul face à l'absence de touristes. La nature n'a pas repris ses droits, parce que nous continuons à l'en priver, parce que son retour provisoire n'était qu'un effet secondaire ni voulu, ni protégé, ni recherché. Pour qu'un réel retour de la nature soit possible, tout écologue vous le dira, il faut qu'il se pérennise, qu'il s'ancre dans le temps long. Mais non, du temps on n'en a plus. Il faut impérativement relancer la machine, rendez-vous compte. L'année 2020 sera indéniablement placée sous le signe de la décroissance, de la croissance négative. Horreur pour l'économie. En un certain sens, c'est presque drôle de voir à quel point cela semble écrit noir sur blanc. Alors que la nature tendait à avancer, l'économie s'est mise à reculer. Et puis, on sait depuis des années que la réciproque est vraie. Lorsque l'économie progresse, c'est la nature qui prend un coup. Alors, comment ose-t-il prétendre se soucier d'elle à l'heure où la priorité affichée, de la manière la plus décomplexée qui soit, est de faire progresser à nouveau l'économie ? Mais bon, quitte à parler de récession, il y a bien un chiffre qui devrait nous redonner le sourire. 8-6. Au-delà d'une boisson à déguster au bord de la fontaine du Courjus pour oublier le désespoir que la société nous inspire, 8-6, c'est le pourcentage de baisse des émissions de CO2 dans l'atmosphère annoncé par le CEA sur la période janvier-avril 2020. Dans un article publié par Le Monde, on lisait que ce serait au niveau de ce que préconisent les experts de l'ONU pour respecter une trajectoire à plus 1,5 degré et donc les accords de Paris sur le climat. Le journal osera même cette formule. 2020, année la plus verte depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bref, on est sauvés. C'est beau, parce qu'on a besoin de ce genre de bonnes nouvelles. Surtout que putain, on y a mis d'une autre pour arriver à ça. C'est quand même pas rien les efforts qui demandaient à chacun d'entre nous conduit à de tels résultats. Des illusions. Si, effectivement, le GIEC préconise bien une baisse des émissions de gaz à effet de serre aux alentours de 8% pour lutter contre le réchauffement global de la planète, le journal Le Monde oublie étonnamment une précision. On parle ici d'une baisse annuelle. Oui. Tous les ans, nous devons baisser de 8% supplémentaires. Mais, globalement, ce qui est nécessaire, c'est une réduction de 50 à 70% de ces émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Ça donne le vertige tellement c'est concret. 8% pendant le confinement, 8% sur l'année pour respecter les accords de Paris. En plus, cette baisse qu'on a observée n'a fait effet que sur la période du confinement. Il ne fait nul doute que la tant attendue relance de l'économie viendra faire baisser ce chiffre. Alors, pour respecter les préconisations du GIEC, il faudrait tenir le rythme de ce début d'année toute l'année. Concrètement, ça veut dire qu'il ne faudrait pas se confiner une fois par an, comme on a pu l'entendre dans certains discours, sûrement pleins de bonne volonté. Non, il faudrait se confiner toute l'année, sans relance de la production industrielle, sans relance de l'industrie des transports ou de quelconque pollution atmosphérique que ce soit, et ça comprend ici la hausse hivernale liée au chauffage domestique. Plus concrètement, il ne faudrait plus aucun litre de pétrole dans les voitures, plus aucune goutte de fioul pour le chauffage, plus aucune centrale à charbon d'ici 2050. C'est encore plus dur. Vous avez trouvé le confinement compliqué ? Eh bien peut-être que vous comprenez maintenant quand on dit qu'il va vraiment falloir faire des gros efforts pour sauver la planète. Et je pourrais continuer comme ça longtemps, les désillusions s'accumulant à mesure que les espoirs d'un changement profond en guise de sortie de crise s'amenuisent. Là où on rêve d'une relocalisation de la consommation, l'exubérante réussite financière d'Amazon pendant le confinement se dresse contre nous. Là où on envisageait une réhumanisation des relations sociales par la prise de conscience de l'importance de l'autre, on observe l'une des plus fortes hausses de l'histoire du marché des GAFAM. Là où la lecture et la culture nous tendent les bras, Netflix et Disney+ étendent leur influence. Là où le temps nous a été rendu pour s'informer et développer notre esprit critique, la loi Avia nous est tombée dessus, abattant du même coup le droit sacré qu'est la liberté d'expression. En bref, là où nous étions nombreux à espérer un monde d'après, le retour à la normale se dessine inexorablement.
C'était au stud comme à l'usine, Babylone a gagné. Je suis pas baisé Kim K ou mes demi de la cagne. Mais vu que chaque jour qui passe, il se met un peu plus à cailler. C'est plus dans la caille. Approcher la cage, j'ai pas le temps pour les fans. Moi, na, never na gadget. Si t'es dans l'under, il faut péter la cage. Si j'étais moins en l'air, je deviens difficile à catcher. Pourtant, ouvre bien les rails, au gros, y'a air qu'on va cacher. Pas chatouilleux de la gâchette. Quête de face, j'ai l'air inoffensif comme une paire de vans.
J'aimerais vous lire ces superbes mots que j'ai tiré de l'introduction du manifeste pour une relocalisation écologique et solidaire, publié par Attac le 25 mai et intitulé « Ce qui dépend de nous ». Je cite. L'espoir, c'est que rien n'est écrit d'avance. La crise sanitaire actuelle le montre. La vie peut l'emporter, au moins provisoirement, sur la logique d'une économie tout entière tournée vers la rentabilité financière. Les dirigeants ont dû décider, complètement à contre-courant des politiques qu'ils mènent et par crainte des réactions populaires, de stopper la croissance, de suspendre les transports aériens et le commerce mondial, de débloquer des milliers de milliards, de bouleverser temporairement les modes de vie. Dans les affaires humaines et collectives, quand on veut, on peut. Cette leçon est apprise, nous ne l'oublierons pas. Le choc de la pandémie doit alerter les habitants et les habitants de la Terre sur la fin d'un monde, ce soi-disant nouveau monde qui n'est que destruction sans limite de la planète pour obtenir une croissance infinie de la production, de la consommation et des profits. La vraie folie dont il faut nous guérir, ce n'est pas seulement celle de la mondialisation, du commerce et des investissements, c'est plus profondément celle du tout-marché qui détruit le travail, la Terre et la vie. Un système du tout-marchandise où des citoyens et des citoyennes supposément libres doivent en fait déléguer à d'autres, les propriétaires de capitaux, l'organisation et les finalités de leur travail et de leur existence. D'autres qui, le plus souvent, ne cherchent qu'à maximiser leurs profits, quoi qu'il en coûte, au reste des humains et à la nature. C'est la folie du capitalisme qui cherche à échapper à tout contrôle, désagrège la société et dévaste la biosphère. C'est la folie du productivisme qui a subordonné le vivant à l'accroissement de la production. C'est la financiarisation de l'économie et de nos vies. C'est la destruction progressive de tous les contre-pouvoirs collectifs. Le remède ne réside alors pas dans un état tutélaire, omniscient et autoritaire qui nous protégerait des étrangers, ni dans un capitalisme vert dopé à la high-tech et au consumérisme smart, mais dans la construction de communs à toutes les échelles, du local au global, pour que la démocratie, à la fois outil et finalité du vivre ensemble, progresse dans toutes les sphères de la vie économique et sociale. Il ne faut pas compter pour cela sur nos premiers de cordée. Les soudaines déclarations d'amour des grands capitaines de l'industrie pour l'écologie et la solidarité sont indécentes. Les mouvements sociaux et altermondialistes travaillent depuis plus de 20 ans à concevoir et à expérimenter des alternatives. Elles sont aujourd'hui mûres, crédibles et radicales, mais il va falloir les partager, les bonifier avec le plus grand nombre pour les imposer aux dominants. Voilà ce qui dépend de nous. Dépend de nous. C'est le titre de ce manifeste que vous pouvez retrouver directement sur le site d'Attac et dans lequel vous retrouverez, entre autres, les participations de Maxime Combes, de Pablo Servigne, de Laurence Coq, de Jean-Baptiste Frézos ou même de Dominique Méda et de beaucoup d'autres. Une lecture plus que conseillée. Pour cette émission, j'aimerais laisser la parole à Margot, une lycéenne rencontrée dans le cadre des manifestations mondiales de la jeunesse pour le climat. Elle a bien voulu aujourd'hui partager avec vous un écrit qu'elle a produit. Dans l'extrait qui va suivre, elle va nous donner sa vision de l'avenir, une vision aussi belle que poignante.
L'avenir est un thème super vaste qui devrait nous faire rêver, comme il a fait rêver les générations passées. Car c'est pour ça qu'on étudie après tout, pour pouvoir être heureux et avoir un bel avenir. La vérité, c'est que quand on me demande comment je vois l'avenir, j'ai juste envie de répondre que je ne le vois pas. Quand on me demande ce que je veux faire plus tard, je réponds avocate, juge ou encore actrice. Mais intérieurement, je me dis juste plus tard, je veux vivre dans un monde viable. Aujourd'hui, l'avenir des jeunes n'est plus assuré. On ne peut pas simplement rêver d'être médecin ou pompier. On est obligé d'être rongé par une angoisse constante. Va-t-on avoir un avenir? Est-ce qu'on va laisser faire ce système? Être la génération qui a abandonné la Terre? Si on vit jusqu'à un âge avancé, que dirons-nous aux plus jeunes? Si je devais décrire l'avenir avec mes émotions, tout d'abord, je dirais que l'avenir me fait peur. Comme pour toutes les générations, l'avenir me fait peur parce que c'est l'inconnu. Mais surtout, une angoisse particulière à notre génération, parce que je ne sais pas si on aura un avenir. Je ne sais pas si ce que je fais aujourd'hui en travaillant au lycée est réellement utile. Ne vaudrait-il pas mieux aider le monde à aller mieux ? Pourquoi travailler si aucun futur n'est possible ? Ensuite, je dirais que penser à mon avenir me rend triste. Si on écoute la science, qu'est-ce qui nous attend ? Des catastrophes naturelles, des sécheresses, des famines ? Voir les plus pauvres mourir sous les yeux des plus riches qui vivront tranquillement ? Même dans l'avenir, je ne vois aucune amélioration de la société. L'humain est trop cupide et bête pour apprendre de ses erreurs. Est-ce qu'on voudrait d'un avenir comme celui-ci ? Enfin, malgré un futur pas joyeux en perspective, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de l'espoir. Des jeunes se bougent, tous les jours, partout sur la planète. Une crise sans précédent, économique et écologique, ne va pas tarder à arriver, si on considère qu'elle n'est pas déjà présente. On peut la regarder, la subir ou en profiter et saisir l'opportunité. L'opportunité de changer un système qui va droit dans le mur et qui ne nous assure pas un avenir correct. Cette graine utopique, elle n'est pas prête de s'éteindre. Beaucoup de jeunes la cultivent et j'ose espérer un avenir. J'ose rêver de faire le travail de mon choix dans une société juste et stable. On est à une période de notre vie où on devrait être entre collègues, à rire, boire et être insouciant. Mais on se retrouve déprimé dès qu'on nous demande ce qu'on veut faire plus tard. C'est absolument pas normal et c'est révoltant. C'est en partie pour ça que la jeunesse est dans la rue. Parce qu'elle aspire à un avenir qui n'est pas un avenir de désolation et de chaos, mais bien de vie et de joie, de progression humaine et sociale.
En temps normal, à ce moment de l'émission, j'ai pour habitude de vous annoncer le traditionnel agenda d'Attaque Marseille pour le mois à venir. Mais période compliquée et mesures sanitaires obligent, celui-ci est un peu moins fourni que d'habitude. C'est dommage parce qu'on voit un peu moins les copains d'Attaque, mais maintenant, tout de suite, c'est presque cool parce que ça me libère un peu de temps d'antenne et du coup ça me permet de vous parler un peu d'Attaque, l'organisation à l'origine de cette émission. Celle qu'on appelle aussi l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, cette association, ATTAC, a été créée le 3 juin 1998 au cours d'une assemblée constitutive. Depuis, ATTAC s'est développée et est depuis présente dans plus de 38 pays. C'est à Paris, en décembre 1998, que s'est tenue la réunion internationale qui fonde le mouvement international ATTAC. Ce mouvement, traditionnellement, y prône la convergence des différents réseaux militants de tous les pays contre les politiques néolibérales. On part ainsi de la conception que les mouvements syndicaux, des droits de l'homme, écologie, citoyens, entre autres, sont des différentes facettes de cet objectif. Un autre des objectifs principaux d'Attaque, c'est de pallier à ce que le mouvement considère comme des dysfonctionnements de la démocratie partout où ils ont lieu. Pour faire ça, le mouvement a la volonté de débattre plus collectivement, d'informer plus efficacement et de développer surtout la démocratie participative. Dans la conférence dont je vous parlais à Paris en décembre 1998, il a été décidé que le mouvement international s'organiserait sans structure hiérarchique ni centre géographique. Il y a bien une plateforme commune qui est tout de même posée comme une référence pour les différents comités, mais ceux-ci restent libres. Du coup, l'organisation est décentralisée par l'organisation autour de comités locaux et est aidée par un comité scientifique qui fonctionne du tonnerre. Alors, je vous ai donné un petit peu de théorie, mais c'est pas trop là où je voulais aller. Je voulais vous parler un petit peu plus de mon point de vue personnel à l'occasion de cette finale de la dernière émission pour parler de comment j'ai entendu parler d'attaque. Attaque, pour moi, c'est cette lueur d'espoir éclairée face à un monde qui s'assombrit. C'est le combat de celles et ceux qui ont compris depuis bien longtemps qu'un autre monde est possible et qui ont décidé de travailler à son émergence. C'est drôle, mais je me souviens encore de la première fois que j'ai entendu parler de cette association. J'étais au collège, en 4e ou en 3e peut-être, lors d'un cours d'histoire géo. Pour aller vite et pour la faire courte, dans ce cours, on y parlait de la mondialisation, des échanges globaux, de l'émergence d'un système unique après l'effondrement d'un monde bipolaire. Et nous, jeunes insolents au fond de la classe, on rigolait en parlant d'un capitalisme trop fort qu'aurait gagné sur le méchant communisme, parce que c'était logique, parce que le capitalisme, c'est bien, voyons. Et, pour une fois, l'enseignant ne nous a pas réprimandés pour nos discussions de front de classe, au contraire, saisissant vaillamment la perche tendue. Voilà que l'enseignant, à travers son discours, ajoutait un mot à mon vocabulaire d'adolescent. Un mot qui allait peut-être tout simplement changer ma vie. L'altermondialisme. C'est fou. On venait de passer tout un trimestre à compter l'émergence de la mondialisation et le développement de sa puissance, passant par sa domination sur notre forme d'organisation collective massive. Et voilà que d'un coup, on apprenait que la victoire n'était pas totale. Altermondialisme, ça signifie littéralement autre chose que le mondialisme. Alors, ça serait possible autre chose ? Bah ouais. J'étais même pas encore né que des personnes à travers le monde portaient cette voix. On a le choix. Et nous, on veut choisir autre chose. Parmi ces hurlus-berlus qui osent rêver un monde différent, le prof nous a cité les militants d'attaque. Ça fait écho, d'un coup. Déjà parce que l'acronyme attaque, ça claque, soyons honnêtes. Mais aussi peut-être parce qu'en discutant avec ma famille, j'ai découvert que ma grand-mère y était active. Du coup, de fil en aiguille, de discussion en apprentissage, cette utopie inédite, ce rêve incroyable, il s'est vite transformé en volonté à découvrir. C'est possible en fait, et ça l'est surtout parce que d'autres y ont cru avant moi. Alors pour moi, c'est ça attaque, de l'espoir par la réflexion et de l'expérience d'un autre champ des possibles par l'action. Et puis attaque, c'est aussi la défense de la libre parole. C'est grâce à attaque et particulièrement au groupe local de Marseille que j'ai eu l'opportunité de découvrir le monde de la radio, m'y perdre un moment et surtout y trouver du sens. Cette opportunité, elle m'a été offerte dans cet esprit de bienveillance qui caractérise tous les militants de l'association que j'ai eu la chance de rencontrer. Et je les remercierai jamais assez pour cette chance qu'ils m'ont offerte, pour cette vocation qu'ils m'ont permis de découvrir. En bref, et pour faire simple, attaque, c'est vraiment, vraiment cool. Et je n'aurai de cesse que de vous inviter à vous renseigner sur ce mouvement et sa concrétisation marseillaise, soit par curiosité simple ou par soif du changement totalement. Alors, vous rappelant que vous pouvez contacter le comité d'attaque Marseille à l'adresse suivante accueil.marseille@attaque.org, accueil.marseille@attaque.org ou simplement sur la page Facebook Attaque Marseille. Vous rappelant tout ça, j'en profite pour remercier très très chaleureusement toute l'équipe d'attaque Marseille pour la confiance qu'ils ont eue en moi durant toute cette saison. Et j'ai une pensée un peu particulière pour Christine et Hervé, sans qui toute cette expérience n'aurait pas été possible. Et vous aussi, ne vous inquiétez pas, chères auditrices et chers auditeurs, je vous remercie. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité tout au long de la saison. J'espère avoir l'occasion de vous retrouver très vite et je vous souhaite d'ici là le meilleur. Force et honneur à tout le monde. C'était Sylvain pour La Gueule Ouverte, une émission d'Attaque Campus.
Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux conos.